La machine informatique, elle est partout, avec ses microprocesseurs, dans les ascenseurs, les lave-vaisselles, les automobiles. C'est la révolution de l'intelligence programmée au service de l'humanoïde.
Si l'automobile avait connu un développement similaire à l'ordinateur, sa vitesse serait 5 fois supérieure à celle du Concorde, même si on effectuait le plein avec une petite burette.
L'informatique, c'est la science de traitement de l'information. Qui fournit de l'information? Vous. Qui exploite de l'information? Vous. Qui est plus fort que l'ordinateur? Celui qui est capable de l'éteindre.
Allô, Sam? Où est-ce que tu as trouvé ce petit ordinateur rose? It's so cute! Tu sais, Jen, je ne m'en sers que pour le courrier. Tu connais pas le CD-ROM sur la cuisine? Le prof, il est génial!
Moi, la mémoire, j'ai arrêté d'en prendre. Avant, j'étais accro. Il m'en fallait toujours plus. Maintenant, avec 200 mégas, je pense être assouvi au moins jusqu'à l'année prochaine.
Je suis né à Budapest en 1903 et d'aucuns m'appellent le père de l'informatique. Qui suis-je?
Einstein?
Désolé, ce n'est pas la réponse.
Hal? Ce n'est pas ça non plus.
Mesdames, messieurs, pour votre sécurité dans le cyberspace, veuillez éteindre vos cigarettes, vos consoles de jeu, vos compatibles, vos montres informatiques à micro-clavier et bien sûr vos téléphones portables, etc.
Il s'agissait du mari de Madame von Neumann, ce cher John.
Cet homme est totalement inconnu du grand public et pourtant de ce cerveau sortiront deux des inventions majeures de notre siècle, la dissuasion nucléaire et l'ordinateur. Cet inconnu, sans doute le génie du siècle, s'appelle John von Neumann. Voici son histoire. John von Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest, au cœur de l'Europe austro-hongroise de l'empereur François-Joseph. Son père, Max von Neumann, est banquier. Il appartient au milieu des intellectuels juifs. John est l'aîné d'une famille de trois garçons. C'est un enfant prodige qui, dès 6 ans, sait diviser de tête des nombres de 8 chiffres et plaisanter en grec classique avec son père. Son professeur de mathématiques ayant conçu pour lui un programme d'études spécifique tenant compte de ses étonnantes capacités, John von Neumann publie à 18 ans ses premiers travaux. Son père l'oriente vers des études de chimie qu'il poursuivra simultanément à l'université de Budapest, ainsi qu'à Berlin et à Zurich. Durant ses nombreux déplacements, John prend goût aux voyages et aux rencontres. À 20 ans, il élabore une définition des nombres ordinaux qui constitue, aujourd'hui encore, un outil unique et puissant pour les algébristes. En 1926, un pouvoir antisémite apparaît en Hongrie. John von Neumann participe à l'exode des intellectuels juifs vers l'Allemagne. C'est le plus jeune assistant professeur dans la grande université de Berlin. Cette époque est, pour l'Allemagne et pour Berlin en particulier, une période d'extraordinaire effervescence intellectuelle et artistique qui place ses écrivains et ses artistes à l'avant-garde de la culture européenne. Von Neumann fréquente assidûment les cabarets et adore travailler dans les atmosphères bruyantes des nightclubs. En 1929, il est invité par l'université de Princeton pour exposer ses recherches en théorie quantique. Mais John est amoureux. Venant de rencontrer Mariette Koevzy, il refuse de s'y rendre, préférant retourner à Budapest où il se marie à 26 ans après une conversion rapide et sans conviction au catholicisme. Dès cette époque, von Neumann s'affirme comme le chef de file de la pensée mathématique moderne. En 1931, il quitte l'Allemagne au début de la montée du nazisme et s'expatrie en Amérique. C'est le début de l'exode des cerveaux, mais John est surtout motivé par les opportunités de carrière que lui offrent les États-Unis. Von Neumann devient professeur à l'université de Princeton. John n'est pas très doué pour l'enseignement. Il est même réputé pour sa rapidité à effacer les formules mathématiques avant même que ses étudiants aient pu les recopier. Ne dormant que quelques heures par nuit et travaillant la majorité du temps, ses recherches personnelles progressent rapidement. À 29 ans, il pose les bases de la mécanique quantique en publiant avec succès « Fondements mathématiques de la mécanique quantique ». Il donne aux scientifiques les outils pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore posés. Pour la plus grande satisfaction de ses élèves, 1933 marque la fin de sa carrière d'enseignant. Von Neumann participe à la création de l'Institute for Advanced Study de Princeton, qui réunit un grand nombre de scientifiques éminents de toutes nationalités. Il a 30 ans, c'est le plus jeune chercheur d'un groupe prestigieux dont il fera partie jusqu'à sa mort. L'Amérique accueille un grand nombre de scientifiques juifs qui fuient l'Allemagne nazie. Retournant souvent en Europe, il prend position contre Hitler. En 1935, Mariette donne naissance à sa fille Marina qui sera son unique enfant. En 1937, elle le quittera pour un physicien nommé Cooper. Quelques mois plus tard, John tombe amoureux d'une femme mariée, Clara Dan, une amie d'enfance qui s'apprête à divorcer. Clara et John se marient le 17 novembre 1938 avant de s'embarquer sur le Queen Mary pour New York. Le couple s'installe dans la plus grande maison de Princeton. John a 35 ans, il gagne confortablement sa vie, ce qui permet à sa fille Marina, âgée de 12 ans, puis à sa propre mère, de venir les rejoindre. Bon vivant, John est attiré par la vie nocturne. Il est capable de se mettre à gribouiller des formules mathématiques en plein milieu de la piste d'un cabaret et pour s'amuser, élabore mentalement une bibliothèque de plaisanteries qu'il ressort chaque fois qu'il en a l'occasion. Ces blagues peuvent également être plus élaborées. Un jour, Einstein doit se rendre à New York. John propose de le conduire à la gare. Pour s'amuser, il l'accompagne volontairement jusqu'au quai pour le faire monter dans le train qui part dans la direction opposée. Dès le commencement de la Seconde Guerre mondiale, von Neumann, consultant de l'US Army, participe à de nombreux projets scientifiques, militaires et paramilitaires. Ses compétences très variées feront de lui l'un des piliers du projet Manhattan. Ainsi, à Los Alamos, sous la direction de Robert Oppenheimer, il contribue à la mise au point de la première bombe atomique. À 41 ans, il participe à sa façon au débarquement en Normandie. Sa capacité à utiliser ou à créer des théories mathématiques lui permet de venir à bout du principal obstacle dans l'organisation de la plus vaste opération militaire de tous les temps. Effectivement, c'est à partir d'outils mathématiques inventés par von Neumann que fut organisée toute la logistique des armées qui libérèrent l'Europe en 1944. La même année, il publie, en association avec son collègue de Princeton, l'économiste autrichien Oskar Morgenstern, une théorie mathématique des jeux et des comportements économiques. Elle crée un modèle mathématique du fonctionnement des économies capitalistes qui influencera largement les sciences humaines. Le principe de la dissuasion nucléaire découlera également de cette théorie des jeux. À la fin de la guerre, il est, comme d'autres scientifiques, horrifié par la barbarie de l'Holocauste et conscient de sa responsabilité dans les conséquences de l'utilisation de l'arme atomique sur le Japon. C'est pourquoi, avec le groupe de Los Alamos, il travaille à mettre en place une théorie de la communication dont la finalité est de délivrer l'humanité des atrocités de la guerre. Ce qui ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, pendant la guerre froide, de faire preuve d'un pragmatisme glacial en préconisant le bombardement de l'URSS. Ses travaux ne l'empêchent pas de continuer à faire régulièrement la fête. Il boit parfois beaucoup, ce qui, d'après son frère Nicolas, lui permet de se mettre au niveau de ses pairs. Aimant le luxe, il s'achète régulièrement les derniers modèles de Cadillac qu'il conduit en chantant à tue-tête et en provoquant de très nombreux accidents. Un carrefour à Princeton fut même surnommé Von Neumann Corner en raison des nombreux accrochages qu'il y avait provoqués. La mémoire phénoménale de von Neumann joue un rôle important dans sa légende. Passionné d'histoire, il avait une connaissance parfaite des arbres généalogiques de toutes les familles royales européennes et pouvait, lors d'un voyage en train dans le sud des États-Unis, commenter minute par minute l'histoire de tous les champs de bataille qu'il traversait. Fasciné depuis longtemps par le fonctionnement du cerveau humain, il consacre la dernière partie de sa vie à concevoir une machine qui pense. En 1946, à l'âge de 43 ans, il atteint enfin son but. Il publie une note révolutionnaire qui établit les bases de fonctionnement des calculateurs informatiques. Le cyber est né. Comme lui, sa machine a beaucoup de mémoire. Comme les neurones, elle fonctionne en binaire avec des tubes à vide. Et comme tout être vivant, elle est capable de communiquer grâce à ses entrées et ses sorties. Dans son architecture, le premier ordinateur de von Neumann adopte donc parfaitement un principe de fonctionnement simplifié du cerveau humain. 50 ans plus tard, la plupart des ordinateurs sont en logique des machines de von Neumann. La presse populaire le présente comme le meilleur cerveau du monde et à Princeton, où vivent Einstein et Gödel, on plaisante sur le fait que von Neumann n'est pas un homme, mais un demi-dieu qui a longtemps étudié les hommes pour les imiter parfaitement. Pionnier de la cybernétique dans les années 50, consultant des multinationales américaines, von Neumann participe largement au développement informatique d'IBM et travaille avec les laboratoires de Princeton sur les premiers prototypes d'ordinateurs. C'est à lui que l'on doit l'adoption du bit comme unité de mesure de la mémoire des ordinateurs et les premières conceptions de machines capables de se reproduire. Ses travaux contribuent à l'époque à l'essor de la génétique. Mais John est toujours attiré par les belles femmes et les plaisirs immédiats. Ses amis racontent qu'il lui arrive fréquemment, en rentrant dans un bureau, de se pencher pour essayer de jeter un coup d'œil sous les jupes des secrétaires. Ayant participé à la mise au point de la bombe à hydrogène, il est nommé en 1954 membre de la Commission américaine de l'énergie atomique par le président Eisenhower. À 52 ans, il reçoit l'Enrico Fermi Award, se sachant atteint d'un cancer incurable, vraisemblablement provoqué par l'exposition à de trop fortes doses de radioactivité. John von Neumann meurt à Washington en février 57 à l'âge de 53 ans. Cette même année, le Spoutnik soviétique décrit sa première orbite terrestre en hommage aux découvertes de von Neumann dans le domaine de l'astronomie. Un cratère porte son nom sur la face cachée de la Lune. Cinquante ans après l'invention du premier ordinateur, von Neumann laisse derrière lui une histoire hors du commun, celle d'un homme qui a été partout où cela se passait, un trait d'union entre le 19e et le 21e siècle.
Objet du contrat, émission de télévision, enquête sur les ordinateurs.
Je me présenterai comme étant journaliste, désireux d'écrire toute une série d'articles sur l'automation comme facteur de la vie moderne.
Bon. Ordinateur, première.
C'est moi. Viens, le soir des saints. Et le récharme.
Il est arrivé.
Hein, qui ça?
L'ordinateur.
Quoi?
Il est là, il est superbe. Il est
corps
et il est magnifique pour
l'heure.
Rideau
ça. Montrez-moi.
Rideau. Regardez. Oh. Applaudissez l'ordinateur.
Les ordinateurs sont apparus, voici quelques années, dans de grands laboratoires de recherche, comme celui-ci. Il est certain que, plus vite qu'on ne le croit, ils vont transformer notre existence quotidienne. Car ce seront les artisans d'une véritable révolution.
Aujourd'hui, nous avons des machines qui non seulement travaillent, mais qui pensent aussi. Je vais vous montrer comment fonctionne notre machine pensante. Si vous voulez bien vous approcher, monsieur Steve.
Si vous disposez de quelques fortunes, vous pouvez en acquérir une. Petite comme celle-ci, pour quelques dizaines de millions.
En tant que journaliste, vous devez savoir que nous autres humains sommes faillibles, instables, capricieux, illogiques et peu sûrs. Une machine, elle, est totalement obéissante.
Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette machine?
L'ordinateur sans mystère, de Loret et Hargnon aux éditions Duno.
Un ordinateur, c'est des fils, c'est de la ferraille, c'est des plaques de circuits imprimés, c'est des transistors et des résistances.
Les cerveaux non humains, qui est un ouvrage collectif édité chez De Noël.
Par conséquent, rien qui me fait penser quelque chose d'extrêmement complexe, comme un cerveau humain par exemple.
Le moindre de nos gestes instinctifs prouve que la machine humaine est plus merveilleuse que le plus perfectionné des calculateurs électroniques.
Et avec ce premier cerveau électronique, la France se place en tête du progrès européen dans ce domaine particulier.
Bon, eh bien, je vous présente Antinéa.
Vous avez des noms sur toutes les machines, Belzébuth, Belle de Nuit, Bochica.
C'est une calculatrice, donc ça sert d'abord à calculer, bien sûr.
Hein? C'est une calculatrice, oui, elle sait calculer.
Bon,
quelques éclairs dans les yeux multiples d'Antinéa, et...
Bah, commençons par les choses simples. Si je vous demande de 324 que multiplie 27...
324 que multiplie 27, pour ça, elle sait faire ça facilement.
On calcule tout avec 0 et 1.
0 plus 1 égale 1.
Une animation nous fera mieux comprendre leur rôle.
Le premier jour, l'homme dit que le chiffre soit et le chiffre fut. L'homme vit que cela était bon, alors il compta sur ses doigts pour ne pas l'oublier. Le deuxième jour, comme il n'avait pas assez de doigts, il inventa le boulier. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine à calculer soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit que l'ordinateur soit et l'ordinateur fut. Comme il vit que cela était bon, alors le cinquième jour, l'homme dit à l'ordinateur, « Croissez et multipliez. »
Bonjour, cette émission, vous en doutez, eh bien, elle est consacrée à l'ordinateur. À l'ordinateur, pourquoi? Eh bien, parce que vous nous l'avez demandé, finalement, et puis parce que, disons que c'est quelque chose qui vous intrigue, et on le comprend.
Qu'est-ce qu'un ordinateur? Fondamentalement, c'est toujours la même machine. Selon les instruments, le programme qu'on lui donne, elle fait un travail ou un autre, mais le schéma général reste très simple.
Je pose une machine pour entrer les informations. Une autre pour les garder en mémoire. Une autre pour faire les calculs. Une autre pour sortir les résultats.
Je vais charger l'ordinateur.
Oui.
L'ordinateur va analyser les désirs et les suggestions des téléspectateurs.
Oui.
Il indiquera ensuite le programme idéal pour faire plaisir au maximum de téléspectateurs. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Bravo! Je suis très heureux de voir que vous êtes pour l'opinion publique. Madame, une simple et unique réponse que les machines électroniques vont nous confier maintenant. Dépêchons-nous, mademoiselle.
Eh bien, l'opinion publique, nous allons la savoir dans un instant, mais décidément, Guy Lux, vos concurrents sont très difficiles à départager. À la première question, ils ont tous répondu la même chose, à la seconde aussi, et ils ont d'ailleurs eu raison à la seconde. Complètement raison, parce qu'il y a seulement 23% des Français qui sont contre les cadeaux de fin d'année, alors qu'il y en a 65% qui sont pour.
Monsieur Durquet, vous êtes le président, directeur général du premier supermarché électronique de Paris. Qu'est-ce qu'un supermarché électronique ?
Dans un supermarché électronique, les articles sont présentés à l'unité et sous cet article, ce spécimen, il se trouve un paquet de cartes perforées qui seront traduites par électronique et qui serviront au client pour faire ses achats.
Quel est l'avantage pour le client ?
Le client a une économie de gestes, il n'est pas bousculé puisque sa collecte se fait dans un petit étui, la collecte des cartes se fait dans un petit étui. Et que c'est tout ce qu'il a apporté. Plus de manutention, plus de chariots, plus de bas qui filent. Et
je vais vous me dire, si en dehors de ces avantages, ça ne va pas tout de même nuire un petit peu. Ça a un petit côté dépouillé, ça manque de chaleur.
C'est certainement un magasin un peu intellectuel.
Je vous demande de bien regarder ce qui va suivre.
L'ordinateur abandonne donc pour quelques jours les hommes d'affaires pour se mettre au service des maîtresses de maison.
Je vous apporte un plan de ma cuisine.
Fort bien. Souhaitez-vous mettre la machine à laver le linge dans la cuisine?
Non.
Pas du tout. Évier inox ou céramique?
Inox.
Quelques minutes d'attente et apparaît la solution la plus rationnelle à tous vos problèmes d'aménagement. En voici un exemple. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez toujours discuter avec la machine.
Quand ces dames préparent un bon plat, évidemment il sera bon, elles font une série programmée d'actes élémentaires, comme allumer une allumette, mettre l'eau dans leur casserole, etc. Un ordinateur fait exactement la même chose.
Il ne fera pas un plat.
Mais bien sûr. Madame Dupas, quelle idée vous aviez sur l'ordinateur ?
Eh bien, je crois que c'est une machine, évidemment, qui peut rendre de très grands services.
L'ordinateur, c'est une machine à ramasser le temps.
Je pense justement à une sorte d'ivresse technique qui saisit les gens dans tous les domaines et qui, évidemment, est très dangereuse. L'ordinateur. Je crois qu'il peut y avoir de très graves dangers.
N'ayez pas peur des ordinateurs.
Vous devez un peu effrayer beaucoup de téléspectateurs qui pensent que ce monde, plus ou moins géré par l'ordinateur, sera un monde déshumanisé.
Oh, je ne le crois absolument pas.
Est-ce que vous avez peur de l'ordinateur ?
Oh, personnellement pas, au contraire, j'espère beaucoup de l'ordinateur.
qui doit travailler pour l'homme, n'est-ce pas? C'est la définition de l'humanisme même, toujours prendre l'homme comme fin.
Je pense d'abord que l'ordinateur va supprimer un grand nombre de tâches de routine, des tâches rebutantes qui ne sont pas dignes de l'homme moderne.
Un nouveau venu, tout à la fois esclave et concurrent de l'homme, en est aujourd'hui capable.
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'ordinateur, bien sûr. D'abord, les citoyens ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'ils n'entendent pas.
Daniel Garrigue, je voudrais votre avis.
Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus, sauf qu'il manque encore l'essentiel.
L'ordinateur. Oh, mais c'est sûr, c'est certain. L'ordinateur, voyez-vous, il faudra s'en méfier. C'est un truc excessivement dangereux.
Vous êtes comme tous les autres, sceptique, insupportablement sceptique.
À l'heure actuelle, monsieur, vous avez un costume. Ce costume a été étudié, dessiné par un ordinateur. Vous avez votre chemise, votre cravate, en fait, tous vos vêtements, vos lunettes ont été étudiés par un ordinateur.
Ça ne fait de mal à personne.
Je sais tout ce qui s'est passé et continue de se passer dans l'univers. Rien ne peut m'échapper.
Bravo.
Ah, mais que c'est bête. Ma montre est arrêtée. Ah ben oui, bien sûr. Veux-tu me dire l'heure exacte, s'il te plaît? Peux-tu me dire l'heure exacte, s'il te plaît? Que signifie cette comédie?
16h01min 26s 2/10, 92 centièmes, 534 millièmes, 4567 dix millièmes, 34 284 cent. Non!
Point flash sur l'affaire de l'informatique. Les ordinateurs subitement fous déboussolent les techniciens qui littéralement ont perdu leur latin. Impossible de détecter l'origine des pannes, comme si une puissance de l'au-delà s'ingéniait à glisser des grains de sable dans les listings des ordinateurs.
Mais c'est Merd!
Eh bien, je vais vous faire une confidence. Nous avons rencontré un de ces contestataires. Nous allons vous le montrer.
Je vais vous montrer quelques armes pour la guerre contre l'ordinateur.
Plastiquant l'ordinateur.
Les ciseaux. La lame de rasoir. L'aimant, qui efface les enregistrements magnétiques. Le papier collant. Le mieux, c'est encore la bougie. Impossible, l'ordinateur ne pourra rien écrire.
Je ne tenterai rien si j'étais vous.
Pour les cartes perforées, c'est à peu près la même chose. Le jeu est de tailler des rectangles dans la carte et de voir ce qui va se passer.
Alors moi, je trouve que les hippies sont beaucoup plus raisonnables. Vous savez que les hippies conseillent simplement d'enlever la prise de l'ordinateur.
Oui, je crois que nous avons un petit problème de liaison avec Michel Chevalet. Si l'électronique est en passe de devenir du quotidien, nous avons encore quelques problèmes de temps en temps de liaison par onde hertzienne. Ah, ça y est, je pense que nous sommes à nouveau en image avec Chevalet.
Est-ce que vous me recevez, Morosi? Je crois
on vous reçoit pour l'instant, nous a perçu il y a quelques secondes. J'espère que tout ça va s'arranger. On vous retrouvera donc, je l'espère, d'ici la fin de ce journal, le temps qu'on mette tout au point. Michel Chevalet.
Est-ce que vous pouvez provoquer une panne artificielle pour qu'on voit ce que ça donne?
Ça m'est facile, je suis à côté du réseau de connexion, je vais retirer un élément de connexion et normalement la machine doit vous signaler la panne tandis que nous continuerons à parler. Alors je retire cet élément.
Oui.
Voici.
Je pense qu'on a pu rétablir les liaisons avec Michel.
Oui, vous avez l'explication, elle est toute simple. Comme on a des câbles qui vont de stand au stand, sur un stand on a enlevé la prise de courant certainement pour mettre en route l'ordinateur ou le réfrigérateur pour avoir des glaçons.
Allô?
Allô? Monsieur Profi?
Oui.
Vous pouvez aussi utiliser le papier collant pour les chèques. Ils sont triés automatiquement grâce à leur caractère magnétique. Aussi, vous recouvrez les caractères magnétiques de papier collant et la machine s'arrêtera.
Ils attribuent à l'ordinateur et à l'informatique, n'est-ce pas, des vertus envahissantes, des vertus anthropophobes et même anthropophages, n'est-ce pas? L'ordinateur dévorerait les emplois.
à l'enjeu ce soir, les conflits entre la machine et l'emploi. La machine et l'emploi, c'est aussi pour la première fois le problème des bureaux. Bureautique, informatique, des mots savants pour des machines qui accélèrent considérablement le rendement dans le travail. Une révolution pour 6 millions de Français qui vivent dans les bureaux des PDG de Planton. Ce soir à 21h25 sur TF1, rendez-vous avec l'enjeu.
Il fait tous les métiers, mais il est toujours le même. Il, l'ordinateur.
Enfin, j'espère que l'ordinateur ne supprimera jamais les vedettes de cinéma.
Puisque c'est le nouveau sport, que la machine décide encore, et nous révèle les conclusions de sa dernière élucubration.
Et voilà!
Un peu de musique pour nous réconforter maintenant. Antinéa sait faire des gammes, qu'elle illustre d'ailleurs par des jeux de lumière.
Vous n'allez pas me dire que cette musique a été composée par une machine, voyons.
Cela viendra, avec le temps.
Oui, elle peut composer, quant à ce que ça vaut au point de vue musical, c'est autre chose.
Vous pouvez avoir un exemple, là ?
Je vais vous faire entendre.
J'ai déjà vu un ordinateur chargé de composer un morceau de musique, eh bien ça, au fond, c'est tout à fait aberrant. Évidemment.
Vous allez voir que la machine sait jouer la truite de Schubert.
Je trouve que l'esprit de création et d'invention ne doit pas être mis à la remorque d'une machine.
Si je t'avais choisi dans un ordinateur électronique, si je t'avais choisi dans un calculateur au nom magique, ta carte perforée, ma carte perforée aurait coïncidé. Et voilà cet effet, tu aurais mis tes trous en face de mes trous, même sans même goût. Et voilà cet étout.
Écoutez, je suis sûr que votre machin là, votre ordinateur, ne reflète pas du tout le goût des téléspectateurs.
C'est absolument impossible parce que l'électronique ne se trompe jamais.
Allons.
Au-delà d'une certaine limite de bêtises et de folie, ma programmation ne fonctionne plus. Bon, d'accord.
Les ordinateurs ont envahi des domaines plus intellectuels. Sur cet écran, comparable à votre écran de télévision, s'inscrivent les questions et les réponses d'une machine à enseigner. Pour l'instant, cette machine n'est qu'un répétiteur électronique.
Mais permets-moi de te dire que tu es un ordinateur particulièrement limité, hein ? N'oubliez pas que c'est vous qui m'avez programmé.
Un objet de trop, insolite. Un terminal. Par la ligne téléphonique associée, Sophie appelle l'ordinateur.
Allô ?
Allô ? Monsieur Profi ?
Oui ? Qu'est-ce qu'il te répond, là ?
Il me dit bonjour, Sophie.
Ah bon ?
Et puis, il me demande le système.
Alors, le système, c'est quoi ?
Le basique.
Ah bon ?
Et là, il me pose une question.
Regardez le dessin. Vous y voyez deux axes de coordonnées et une droite, D, dont vous devez chercher l'équation parmi les quatre qui vous sont proposées. Et répondez en écrivant le numéro correspondant. C'est en effet la réponse attendue, celle que donnent en général les bons élèves.
Il ne faut pas être très étonné si la plupart des jeunes gens maintenant ne savent pas écrire une lettre.
Déjà,
Les machines apprennent à écrire. C'est pour elles un immense effort que d'apprendre, comme pour nous-mêmes. La voici en train de reproduire une signature. Pour cela, elle doit calculer mathématiquement les diverses courbes qui la composent. Elle tâtonne, mais elle arrive très vite à la perfection.
Déjà, elle sait dessiner. On lui donne les caractéristiques d'une maison ou d'un pont et elle le dessine sous tous les angles à la demande.
Et pour terminer cette séquence, Jacob Bourret, je vais vous montrer qu'avec un ordinateur, on peut faire encore de très jolies choses. Regardez, ça en vaut vraiment la peine.
Michel Chevalet s'est intéressé tout particulièrement à une nouvelle race d'ordinateurs, l'ordinateur qui parle.
Elle s'appelle Alice. Elle parle, elle a été conçue au CNET, à Lannion, au centre de recherche des PTT.
Notre corbeau, sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage.
Alors nous avons trouvé le photocopieur qui parle, écoutez-le.
Attends.
Voilà, attendez, allez-y. Alors, ensuite il va nous annoncer. Voilà, faites des copies. Il va faire sa photocopie. Une fois que la photocopie est faite, on n'en doute pas. Il peut nous dire enlever l'original. Alors vraiment, si avec ça, nos secrétaires ne savent. Voilà, ce qui est tout de même très important. Enfin, je vous montre le futur. Alors là, elle parle, on ne peut plus l'arrêter. Hein.
Regardez, c'est stupéfiant.
Ce que vous venez de voir, c'est en quelque sorte la synthèse de la parole, c'est-à-dire la machine qui singe la voix humaine.
Avant de vous dire bonsoir, nous allons vous présenter un ballet. Ballet créé par un ordinateur, c'est un ballet de courbes.
Regardez, ça en vaut vraiment la peine.
La création artistique et l'ordinateur est aujourd'hui un fait acquis.
Tu cherches le bonheur sur ton ordinateur. Tu vibres mécanique, soleil électronique, tu as gagné le noir.
On ne prononcera pas aujourd'hui de condamnation au droit lax de l'ordinateur. On va simplement demander à nos amis téléspectateurs de juger par eux-mêmes et de se faire leur opinion.
Ce soir, c'est un festival. On se croirait en plein carnaval. Ici, l'on mélange allègrement la chanson, la danse, le document.
regardez, ça en vaut vraiment la peine.
Bonsoir. I'm sorry I can't
je suis désolé de ne pas être avec vous, et je suis content de vous parler via cette vidéo. Je voudrais vous remercier tous, clients, distributeurs et employés, pour l'aide que vous avez apportée à notre réussite.
Bill Gates, qui aurait cru que ce jeune homme discret, au look d'éternel étudiant, serait un jour consacré comme la star du box-office américain? La fortune suscite bien des jalousies. À en croire certains, le PDG de Microsoft serait animé d'une soif de pouvoir démesurée. Il chercherait, pour son seul profit, à s'accaparer le patrimoine culturel mondial. Mais enfin, qu'a-t-il de mieux que nous, ce Bill Gates?
A boy.
Bill est né coiffé. Dès l'adolescence, ce surdoué des mathématiques désarçonnait ses professeurs par sa rapidité de raisonnement et sa mémoire prodigieuse. C'est à 14 ans que se révèle la passion de Bill, sa maman ayant eu la bonne idée de placer son fils au lycée de Lakeside, où le club des mamans, ayant loué des terminaux d'ordinateurs, initie les élèves à l'informatique. La suite appartient à la légende. Bill, s'étant lancé dans le business en créant Microsoft, la chance veut qu'IBM vienne frapper à la porte de la petite entreprise.
Tout ça me rappelle la construction de l'architecture DOS il y a 10 ans. Le DOS a été un engagement incroyable. Le but était de rendre les PC utiles pour tout type de travail.
La transaction faite avec IBM autour du MS-DOS assure à Microsoft une confortable rente.
Maybe you could give it to me. You know, as a symbol of delivery.
Mais Bill Gates n'est pas homme à se contenter du statu quo. La vision qui le fait avancer est celle d'une informatique toujours plus amicale, omniprésente. Tout au long des années 80, il cherche à imposer l'interface graphique Windows, qui mettra plusieurs années avant de trouver son public. Longtemps, elle sera la risée de tous.
Avec l'introduction de Windows version 3, nous avons réussi à mettre Windows à portée de tous.
En mai 90, sort la troisième version de Windows.
How much did you guess? 500? 1000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft.
Plus rien ne semble arrêter Bill Gates. Lorsque le vice-président des États-Unis, Al Gore, lance le projet des autoroutes de l'information en 1993, il saisit l'opportunité pour étendre son rayonnement dans les secteurs les plus divers. Commerce électronique, spectacle, télécommunications. Il nous convie à une vision idyllique d'un futur proche. Où nous ferons nos courses avec un porte-monnaie électronique. Où le musée viendra jusqu'à notre domicile. Où chaque foyer sera totalement contrôlé par ordinateur. Où l'écran interactif remplacera le tableau noir dans les écoles. Où il sera possible de pratiquer la médecine à distance. À l'été 95, la nouvelle version de Windows est propulsée sur le marché à grand renfort de pub. Bill, infatigable vendeur, continue à prêcher sa bonne parole d'un futur radieux.
En vitesse lumière, éradiquer J3, J6, en J16, feu à volonté.
Tous vos croiseurs sont coulés. Vous avez perdu. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à votre travail?
Oui, connasse.
Voulez-vous quitter ce dossier ou quitter le système?
quitter le dossier.
Dublin est à la porte principale.
Passez porte principale.
J'ai oublié ma carte, tu peux m'ouvrir?
Ben tout de suite, ma beauté. Ouvrir porte principale et porte 532, connasse.
Il s'est encore changé son nom, tu fais chier. Il était encore en pyjama à Tercy?
Ben ouais. Salas, préparez un bain en préférence Lubna et fermez le système Simon. Verrouillez la messagerie vidéo.
Système fermé et verrouillé. Merci Simon.
De rien, connasse.
Lubna est à la porte 532.
Eh ben passez Lubna.
C'est fermé de l'intérieur, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? J'ai une journée vraiment chiante, alors si en plus il faut que j'attende à la porte à cause de tes habitudes manuelles. Vraiment t'es lourd dingo, hein. Allumé. Je suis dévastée.
T'es dévastée depuis que t'as pris ce boulot dans un bureau. C'est archaïque comme méthode. Tu devrais reprendre un boulot normal à la maison, quoi.
Je t'ai déjà dit que j'aime bien ce côté 20e siècle. Regarde ce que j'ai trouvé chez un antiquaire. Un jean.
Ah, c'est le même que dans Universal Soldier. Je l'ai revu il y a un mois sur le système.
C'est marrant, j'étais sûre que ça te plairait.
Je t'ai fait couler un bain.
T'as passé une bonne journée?
Bah, j'ai passé tout mon temps à bosser sur l'écran. Je suis un peu crevé, hein. Ah, au fait, Gertel Audru pour appeler, ils veulent aller manger au resto. Ça te dit?
Ouais, si tu veux.
Tu veux manger où? C'est à nous de trouver le restaurant.
Ça m'est égal, j'ai pas très faim.
Italien, ça te dit? T'aimes bien chez Nino?
Ah non, pas chez Nino. La dernière fois qu'on est allé, on a attendu une heure et en plus le décor est vraiment glauque.
Oh bon, ben, un autre italien si tu veux. J'ai entendu parler de... Venise au 20e siècle. Paraît que c'est cher, hein, mais c'est le Gabon.
Bof, mais italien, ça me dit trop rien.
T'as pas une autre idée alors?
Bah non, choisis-toi, je t'ai dit que j'avais pas très faim. La porte.
Pardon. Japonais, c'est bon, c'est léger et on pourra chanter des vieilles chansons. Enfant incontrôlé.
Le japonais, j'ai l'impression d'y aller toutes les semaines.
Ah, t'as pas l'impression, hein. On y va toutes les semaines. Comme quoi, il faut revenir à des vrais aliments, à une alimentation équilibrée qui nous fera redécouvrir la crise cardiaque. De toute façon, je m'en fiche, moi, du Jap. Ce que j'aime, c'est les chansons.
Bon, ça va, arrête. De toute façon, j'ai mangé nippon à midi.
Et chinois, alors?
C'est ça. Et pourquoi pas thaïlandais pendant que tu y es, un abonnement aux toilettes?
T'es chiante, là. Non, mais vraiment, hein. T'as qu'à le choisir, toi, le resto, puisque t'es si maline.
Ah, ça y est. Monsieur se décharge. Dès qu'il y a une décision à prendre, il n'y a plus personne, hein. Et puis arrête avec ce ballon.
Redis ce que t'as dit.
J'ai dit arrête avec ce ballon.
Non, ce que t'as dit avant.
J'ai dit que dès qu'il fallait avoir un peu de sens pratique et un esprit de décision, monsieur se débinait.
Je me débine pas du tout. Ça fait une heure que je te propose des restos et que madame fait la martienne.
Eh ben c'est ça ton problème. Tu proposes, tu décides pas.
Mais je propose parce qu'on y va à deux au restaurant. Pour moi tout seul, ça fait longtemps que j'aurais choisi.
Ah oui? Et qu'est-ce que t'aurais choisi?
Hein?
Je te demande ce que t'aurais choisi.
Bah, je sais pas, mais j'aurais choisi.
Eh ben, tu vois, tu sais pas.
Si, je sais, mais tu me stresses.
Eh ben, alors réponds.
Italien.
Ah, la facilité. Une fois de plus, tu choisis la facilité.
Je savais pas qu'italien, c'était facile.
Oh, ça va, hein, joue pas sur les mots. T'as très bien compris ce que je voulais dire. De toute façon, t'es un assisté, tu seras toujours un assisté. Voilà ce que t'es, un assisté.
Je suis pas un assisté. Je fais ce que je veux et quand je veux.
Ouais, quand ta mère te le dit.
Ah mais alors là, t'as pas le droit de parler de ma mère.
Ah et pourquoi j'ai pas le droit de parler de ta mère? Ah non mais vas-y, dis-moi pourquoi. Vas-y, défends-toi un peu. Pourquoi j'ai pas le droit de parler de ta mère?
Parce que...
C'est pas une réponse, j'attends le pourquoi. Réponds-moi puisque t'es si fort. Pourquoi j'ai pas le droit de parler de ta chiantissime de mère?
Parce que t'en as pas de mère, t'es dans machine et que ton père il est pédé, voilà pourquoi.
Laudrup et Gert sont au visiophone.
Eh ben passez visiophone.
Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez décidé pour le restaurant?
Non, pas encore. Lubna est dans son bain, on n'a pas encore décidé. Vous avez pas une idée, vous?
Moi, j'aurais bien mangé dans un vieux resto style Hard Rock Café, c'est zika bon. Surtout leurs burgers végétaux.
Eh ben, pourquoi pas, hein?
Alors, peut-être que mon père, c'est un ped, mais en attendant, il nous fait pas chier à appeler trois fois par jour.
Bon, ben, justement, Gert disait qu'il irait bien manger dans un vieux restaurant.
Il n'essaie pas de détourner la conversation. J'en ai rien à foutre d'aller manger avec ces deux cons.
Bon, dès qu'on a décidé, on vous rappelle, hein.
Ouais, mais pas trop tard,
visiophone. T'es chiante avec ma mère. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant?
Ce qui m'arrive? Il m'arrive que j'en ai marre de vivre avec un sans-couille qui visiophone à sa mère à chaque fois qu'il lave une tasse à café. Voilà ce qui m'arrive.
Et j'en ai marre de toi, nanana. Bon, alors ça y est, c'est fini. On peut plus se parler normalement maintenant.
Peut-être.
Ah, tu veux qu'on sépare juste parce que ma mère aime bien visiophoner?
Non, c'est pas ça.
Eh ben alors, on arrête de jouer les lourds dingos. T'es sûr que ça va pas reprendre, hein? Oh, ça va?
Oui.
Est-ce que t'as faim?
un peu.
Eh ben, si on mangeait russe. Mais ici, hein, rien que tous les deux.
Et tu crois que ta mère, elle va être d'accord?
Ah, tu me fais chier avec ma mère.
Mais moi aussi, elle me fait chier, ta mère.
Tu sais ce qu'elle fait, ma mère? Ma mère, elle t'emmerde. Toi, ton père, son mari, son androïde, la machine qui t'a fabriqué et tout ce qui peut vous ressembler de près, de loin ou de très très loin. Ma mère, elle vous emmerde, ma mère.
Cobwebs in the rain, making patterns as we walk down Lover's Lane. Seems that each new step is somehow preordained. I've not traveled this way before. Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dreams passing by. Love seemed like that before. Since I found you, there's no doubt left in my heart. I've cleared all the cobwebs away. I see clearly, so we don't need any chart. No tarot cards, no dice, no crystals set in ice. Shining down upon our love.